Cette fin du chapitre 20 témoigne de l'attachement des anciens de l'église d'Éphèse à Paul. Car Paul est à la fin de son troisième voyage, qu'il a mené plus spécifiquement à Éphèse, où il a séjourné un long temps. Et nous l'avons bien compris, il le dit, il ne reviendra pas. Il veut et il doit se rendre à Jérusalem, et il annonce qu'il sait que ce sont les derniers temps passés avec les communautés. Je rappelle que l'essentiel du message du livre des Actes n'est pas l'histoire de Paul, mais bien plutôt l'histoire de l'avancée de la parole en terre non juive, avancée déterminée et menée par Dieu seul. Ce livre a très certainement pour auteur l'auteur du livre de Luc, de l'évangile de Luc. Et j'ai choisi ce matin, dans ce chapitre, de nous arrêter sur les deux types de lieux auxquels Paul fait ses adieux. Tout d'abord, ce qu'on appelle dans nos terres de dissémination une ecclésiole, une église de maison. Et puis ensuite, avec les anciens d'Éphèse, une communauté déjà constituée, avec présence d'anciens, d'épiscopes, c'est-à-dire de responsables. Paul le dit lui-même, l'avez-vous bien entendu, je l'ai lu, il parle tout autant publiquement que pour toute personne donc, que dans les maisons particulières, comme à Troas. Et Paul a encore beaucoup de choses à enseigner, que ce soit à cette jeune assemblée dans la maison de Troas, chez qui il semble d'ailleurs avoir l'habitude de passer, on a même dans une lettre à Timothée le nom de Carpos, il était peut-être chez M. Carpos, ou que ce soit dans cette jeune communauté d'Éphèse que l'on comprend fragile. Il faut les fortifier toutes les deux. Tant de discours extérieurs peuvent venir les troubler, et c'est ce que Paul a pu constater en d'autres lieux. D'autres que lui venaient prêcher leur propre évangile, et non celui de Jésus-Christ. À Troas se tient une réunion de maison. C'est comme une petite église de poche qui se retrouve chez l'un ou chez l'autre. La nuit, car en journée les personnes travaillent bien sûr, mais aussi car il faut être discret, et la réunion alors la nuit va être discrète. Paul est là et il parle pour la dernière fois. Les dernières fois sont toujours difficiles à vivre. Elles introduisent un temps de deuil, de séparation, un temps de renoncement. Partir, c'est mourir un peu, dit une chanson, mais les paroles de la chanson disent aussi « L'absence est à l'amour ce que le vent est au feu. S'il est fort, il la vive. Faible, il l'éteint par jeu. » Paul le sait, et lui qui pressent peut-être comme Christ, il périra de son engagement à suivre, à être rentré dans la voie. Alors pour lui, c'est plutôt la phrase d'Alphonse Allais qui est plus probable. Partir, c'est mourir un peu, mais mourir, c'est partir beaucoup. Il est là, proche de ces jeunes assemblées, aussi jeune que l'est le jeune homme, sur le bord de la fenêtre. Ce jeune homme sur le bord de la fenêtre, prompt à suivre la parole, mais aussi peu assuré devant le sommeil, devant le vide, devant la chute, devant la mort. Il est sur le bord, en déséquilibre. Paul est là, donc, dans cette assemblée, aussi jeune que ce jeune homme. Il est là pour rompre le pain, il a un but. Et rompre le pain, c'est continuer l'affirmation, la diffusion du message pascal. C'est cela, le repas du Seigneur, la scène. Et l'événement de la chute d'Eutyque, Eutyque ça signifie le chanceux, est une sorte de parabole finalement, racontant ce que Paul est en train de rappeler en enseignant la maisonnée. Certes, lui part, il ne les reverra pas, ils ne le reverront plus, comme lors d'une séparation due à un deuil, mais ils ont un message de vie en eux, avec eux, la résurrection de Christ, ce repas du Seigneur, à partager encore et encore, car il est un don de vie. Le message de Paul est tellement fort, important, que lorsque l'accident arrive, il descend les trois étages, se penche sur le jeune homme, et tel Élie a pu le faire avec un enfant dit mort, il le prend dans ses bras, et il rassure tout le monde en disant « Ne vous inquiétez pas ». Et il continue par, justement, ce qu'il était en train de dire trois étages plus haut, en parlant de Jésus et en préparant à ce partage du pain, « Il est vivant ». Nous pouvons penser que cette dernière affirmation est dite à propos du jeune homme, qui va d'ailleurs se relever, mais elle est aussi la base de la nouveauté du message que Paul apporte à cette maison. Christ est vivant, la mort est morte. Ce que vit donc la communauté de Troas, c'est la réalisation même de la bonne nouvelle prêchée par Paul. Quelle saveur ont dû saisir celles et ceux qui, remontés, ont partagé le repas du Seigneur, le dernier repas aussi partagé avec Paul. Par quelle force ont-ils dû être saisis ? Oui, ils venaient d'être touchés par la force de cette affirmation « Il est vivant ». Ainsi, l'angoisse de se demander ce que deviendrait la communauté de maison si jeune, après le départ de Paul, pouvait disparaître. Même si Paul ne revenait plus, le message « Il est vivant » continuerait d'être annoncé, proclamé. Par d'autres bouches, par d'autres voix, peut-être par d'autres mots, mais il serait prêché, diffusé, et surtout, il révélerait à chacune et chacun ce que cela lui offrait, une vie nouvelle. Paul pouvait partir, on le savait maintenant, ce qu'il avait construit, cette petite communauté de maisons, continuerait, elle vivrait. Elle aussi se relèverait, elle aussi, comme Tic, se mettrait debout, car tout c'était sous cette bénédiction, cette affirmation, il est vivant. Et cette vie-là se transmettrait et se transmettrait encore. Elle serait le principe de vie de celles et ceux qui refuseraient toujours la radicalité de la mort. Je passe maintenant à l'autre discours d'adieu de Paul. En observant ce discours d'adieu de Paul aux anciens de l'église d'Éphèse, nous constatons aussi cette tristesse de la séparation d'avec Paul, mais celui-ci ne les abandonne pas à eux-mêmes. Il leur laisse un héritage, celui de la conduite de toute une communauté. Il rappelle le message qu'il a martelé, entrer avec Christ dans le baptême, unique pour chacun, le même pour tous, et changer radicalement en se tournant vers Dieu, mettre leur foi en notre Seigneur Jésus. Mais aussi, annoncer sans cesse ce message au prix de larmes, de détresse, sans rien cacher de la grâce de Dieu. Offrir, donner, accompagner, soigner, soutenir les plus faibles, ne jamais rien dissimuler. Deux fois, Paul le leur dit dans le texte. Ne pas courir après l'argent et les honneurs, lui ne l'a pas fait. Ne pas chercher à être aimé pour soi-même seulement, mais offrir l'amour que Dieu donne à chacun. Ne pas chercher à être le maître, mais toujours serviteur de celui qui souffre, de celui qui est exclu ou peu aimé. Et Paul leur parle par le savoir. Deux fois de suite, il dit « je sais », mais deux fois de suite aussi, il dit « vous le savez vous-même ». Il fait donc appel à leur autorité, à leur discernement. Il y a toujours des loups qui rôdent près des bergeries, des faux serviteurs de Dieu. Nous avons vu la semaine dernière, au chapitre 19, des fils de prêtres juifs tentaient de s'approprier la qualité d'appel au nom de Jésus pour soigner les malades. Et souvenez-vous, les esprits mauvais ne leur obéissaient pas car eux-mêmes discernaient que ce message était détourné par eux. Paul a eu aussi à combattre des prêcheurs. Certains, ils les combattaient car leur prédication ne servait pas Christ mais leur servait à eux-mêmes. D'autres, il complétait, pour Apollos par exemple, il complétait leur message sans les combattre. Il laisse un message très fort aux anciens d'Éphèse. Veillez, je vous fais confiance et je vous confie à la grâce de Dieu qui a la puissance de construire et d'assurer un héritage parmi tous ceux qui sont consacrés. Oui, ils sont consacrés, c'est-à-dire choisis pour assurer un ministère. Le message d'adieu n'est pas tout à fait le même à s'adresser à un groupe de personnes dans une maison ou à une communauté déjà constituée et organisée. Pour les personnes écoutant l'enseignement de Paul, elles ont à apprendre en leur vie, ainsi qu'aux yeux de Dieu, en Christ, que rien ne les différencie les uns des autres. Hommes, femmes, juifs, grecs, esclaves, maîtres, aujourd'hui on dirait patron, ouvrier, intellectuel, manuel, et on pourrait faire appel ainsi à une multitude d'autres couples d'identités différentes. Et c'est si souvent le message des prédications le dimanche autour des textes bibliques. Quant à la communauté déjà établie, il faut veiller à ce que le message d'amour de Dieu jamais ne soit édulcoré, laissant toute liberté pour faire n'importe quoi, mais non plus ne soit jamais associé à des restrictions qui excluraient certaines personnes de l'amour de Dieu. Il faut donc sans cesse chercher à avoir le souci de l'autre, du frère. Chercher à s'oublier soi, quand rien n'est que pour soi, afin de se découvrir soi, c'est-à-dire tel que Dieu nous attend, avec et pour les autres. Nos églises de nos jours auraient bien à revoir leur passé et à analyser comment elles ont traversé les temps. À bien des moments, comme pour Troas, certainement, il a fallu se poser la question, est-ce que tout cela va mourir ? Comment vivre, acceptant qu'aujourd'hui ne soit plus semblable à hier ? Il est vivant. Si cette parole est la force de notre foi, alors nous saurons trouver les moyens de toujours annoncer cette bonne nouvelle. Peut-être réfléchirons-nous et accepterons-nous de donner de notre temps, de notre présence, non pas seulement pour recevoir, même si cela nous enrichit, mais aussi pour offrir à celles et ceux qui sont nos compagnons de quoi aussi s'enrichir. Car l'enrichissement est une merveille qui jaillit de rencontres et de partages communs. Il ne s'agit pas d'écouter une prédication seulement et de la garder pour soi dans son cœur, mais il s'agit de s'en nourrir et d'offrir à d'autres ce que le message retenu a créé en soi. Troas, ce soir-là, cette nuit-là, en cette dernière rencontre avec Paul, est née à la vie du toujours vivant. Les hommes et les femmes se sont organisés, se sont lancés, ont décidé d'agir, de redonner tout ce que Paul leur avait donné, d'enseigner et d'essayer de vivre en cohérence avec ce message de vie. Les femmes et les hommes de Troas ont décidé de ne plus être des mendiants ou des quêteurs d'absolu, de merveilleux ou de mystiques. Ils ont essayé d'accorder leur vie au diapason de ce qui était devenu le plus important pour eux, et le plus important n'était plus le guide, Paul, en sa personne même, mais ce qu'il ne cessait de dire. Et il avait parlé, et parlé, et parlé, sans discontinuer. Des anciens de l'église d'Éphèse, eux aussi étaient tristes. Ils ont pleuré de ce départ, comme l'on pleure lors de la séparation définitive d'avec l'être aimé. Mais ils savaient que Paul serait toujours vivant parmi eux, comme Christ l'est toujours au milieu de nous. Eux aussi ont eu à s'y mettre, comme à Troas. Alors nous aussi, quelques siècles après, à nous de nous y mettre, chaque jour, chaque instant, afin que ne s'éteigne jamais cette merveilleuse nouvelle. Il est vivant. Amen.
Thank you.
Je vous invite à prendre vos cantiques, le 49-13, les strophes 1, 2 et 4. Je vous invite à rester debout afin de confesser l'espérance qui nous anime. Nous croyons que, créés à l'image de Dieu qui est amour, tous les êtres humains, quels qu'ils soient, naissent enfants de Dieu, porteurs d'un germe de vie divine, d'un germe d'amour. L'homme est plus grand que l'homme. Nous croyons que ce germe de vie divine rend l'être humain apte à tout dynamisme d'union et de communion. Nous croyons que Dieu créa l'être humain à son image. Homme et femme, il le fit. Nous croyons que, ensemble, dans la complémentarité, nous avons été créés à sa ressemblance. Nous croyons que Jésus-Christ est la révélation du visage humain de Dieu et du visage divin de l'homme. Nous croyons que Jésus-Christ est l'amour fait vie humaine. Il appelle tout homme à devenir fils à sa suite pour qu'advienne la fraternité universelle. Nous croyons que l'Esprit-Saint nous rassemble et nous unit avec nos différences. Nous croyons que, plénitude de don, Seigneur, tu es Père. Plénitude d'accueil, Seigneur, tu es Fils. Plénitude de communication, Seigneur, tu es le souffle saint. Unité de diversité, Seigneur, tu es communauté d'amour, secret et projet d'un monde nouveau auquel aspirent confusément tous les hommes. Amen. Seigneur.